Donc Romains 11, versets 1 à 24. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie, quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, moi seul je suis resté, et ils cherchent à m'enlever la vie ? Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. De même, dans le temps présent aussi, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Qu'en est-il donc ? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu et les autres ont été endurcis. Comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à aujourd'hui. David aussi dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, un obstacle et un moyen de punition. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, fais-leur courber constamment le dos. Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché ? Certainement pas. Mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance, la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Je vous le dis à vous qui êtes d'origine non-juive, en tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fière de mon ministère afin, si possible, de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie ? Or, si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté envers toi, si tu demeures dans sa bonté, autrement, toi aussi, tu seras retranché. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier.
Non, ce n'était pas Joe, et oui, le vrai Joe n'est pas aussi beau. Bonsoir à toutes et à tous, ça me fait plaisir d'être là ce soir. Je vous apporte les salutations de l'église naissante à Saint-Lazare. Quelques membres, je vois ici ce soir. Pourquoi pas nous rendre visite un jour, vous serez les bienvenus. Apple, 1985. Après l'échec de son ordinateur, le Macintosh, fondateur Steve Jobs, démissionne. Les ventes d'ordinateurs Apple chutent, l'entreprise est largement devancée par Microsoft, et risque de tomber dans l'oubli. Tout donnait à penser qu'Apple, c'était un gros échec. Aujourd'hui, c'est l'entreprise la deuxième plus riche de la planète. Michael Jordan, le joueur de basket, 1978. Adolescent, il est jugé trop petit pour être sélectionné pour l'équipe de son lycée. Il vit très mal, mais ça le motive Et aujourd'hui, Jordan est considéré sans doute le meilleur joueur de basket de l'histoire. Le point commun entre ces deux exemples, un échec en apparence, une incroyable réussite en réalité. Et notre passage ce soir nous parle aussi de comment un échec en apparence devient en réalité une incroyable réussite. Depuis plusieurs semaines, on étudie les chapitres 9 à 11 de Romains, où la question de fond, c'est comment comprendre que le peuple historique de Dieu, le peuple juif, comment comprendre qu'ils n'ont pas cru en Jésus? Comment comprendre que ces gens au milieu de qui Jésus est né, au milieu de qui il a grandi, qui ont écouté son enseignement, qui ont vu ses miracles, comment comprendre qu'ils l'ont rejeté? Est-ce que c'est juste un accident de parcours? Ils n'ont pas cru, ils se sont trompés, autant pour eux. Sauf que si on réfléchit, c'est quand même un problème qui a de quoi nous inquiéter. Voici pourquoi. Dans l'Ancien Testament, Dieu a adopté Israël comme son peuple. Il est entré en relation avec eux, il a habité parmi eux, il a promis de les bénir. Dieu s'est engagé envers ce peuple de manière solennelle. Mais quand Jésus-Christ arrive, ce peuple le rejette. Et il se retrouve coupé de la faveur de Dieu. On dirait que Dieu, qui a fait toutes ses promesses, n'a pas réussi à tenir ses engagements envers eux. On dirait qu'il a échoué, ou bien qu'il n'a pas tenu sa parole, ou pire, qu'il a changé d'avis. Le peuple qu'il a promis de bénir paraît être rejeté et déchu de sa faveur. Et si Dieu n'a pas tenu sa parole envers eux, pourquoi penser que ce serait différent pour nous? À nous aussi, Dieu a fait des promesses. Il y en a des merveilleuses dans cette lettre aux Romains. En voici quelques-unes. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Des promesses merveilleuses, on a le cœur qui brûle en lisant ces passages. Mais si Dieu n'a pas tenu sa parole envers Israël, ou s'il y a eu un dysfonctionnement, si les promesses de Dieu n'ont pas abouti pour les Juifs, pourquoi penser que ce serait différent pour nous? Paul veut nous montrer ce soir que, loin d'être incohérent ou capricieux ou incapable de tenir ses promesses, Dieu est complètement constant et complètement fiable. Et le but de ce passage, c'est de nous donner une confiance absolument solide en l'Évangile, nous montrer qu'on peut tout miser sur Jésus, mettre tous nos œufs dans le même panier, si vous voulez, sans hésitation, sans état d'âme. L'enjeu, c'est de nous rassurer que si on a mis sa foi en Jésus, on a fait le bon choix. Dieu ne nous laissera jamais tomber, on a une espérance absolument certaine. Et c'est aussi de nous assurer que la bonne nouvelle de Jésus est un message qui mérite d'être partagé. Trois points. Confiant dans son plan, émerveillé par son plan et humble devant son plan. Ça ne vous aura pas échappé qu'on est en période de campagne électorale. Une stratégie courante dans une campagne politique pour décrédibiliser un adversaire, c'est de montrer que la personne a changé de positionnement sur une question. Au début de la campagne, tu disais cela, mais maintenant tu dis ceci. Ton positionnement a changé, on ne sait pas sur quel pied danser. Tu n'es pas digne de confiance. Mais si la personne arrive à montrer qu'en fait, elle n'a jamais changé de discours, jamais changé de positionnement, par exemple en s'appuyant sur son programme, à ce moment-là, elle retrouve sa crédibilité. Et dans les versets 1 à 10, on voit que Dieu n'a jamais changé de positionnement vis-à-vis du peuple d'Israël. Il n'est pas incohérent et il n'est pas capricieux. Il est absolument constant. Verset 1. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Le premier élément de l'argument de Paul, c'est tout simplement qu'il est lui-même juif. L'immense majorité des juifs n'a pas cru en Jésus, mais plusieurs l'ont fait. Paul est juif, tous les autres apôtres sont juifs, Pierre, Jean, Jacques, à l'exception de Luc, tous les auteurs du Nouveau Testament sont juifs. Et encore aujourd'hui, on trouve des juifs messianiques, des juifs qui croient en Jésus. Il y a par exemple l'association Juifs pour Jésus, que certains connaissent peut-être. Dieu ne les a pas juste rejetés en bloc. Plusieurs ont cru. D'accord, dites-vous, mais ce ne sont que quelques personnes. Par rapport au nombre total des Israélites, ce n'est pas franchement une réussite. Dieu avait promis à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Au final, on se retrouve avec une petite poignée de croyants. Il y a un problème quelque part. Et c'est là que Paul nous montre que cette situation où seule une minorité des Israélites est fidèle à Dieu n'est pas nouvelle. Ça a toujours été comme ça. Depuis que Dieu a fait d'Israël son peuple, la plupart de ses membres ont été infidèles. Seule une minorité est restée attachée à Dieu. Et il prend l'exemple d'un des grands héros de l'Ancien Testament, Élie. Alors, pauvre Élie. Élie n'a pas eu la vie facile. Peut-être que vous avez l'impression d'être le seul chrétien dans votre lieu de travail ou même dans votre famille, mais au moins vous pouvez rencontrer d'autres chrétiens à l'église. Élie, lui, se sent vraiment seul au monde. Il a vécu pendant une période particulièrement sombre de l'histoire d'Israël. Quasiment tout le monde a abandonné Dieu pour servir des idoles. Élie essaie de les ramener en vain. Et Paul reprend son histoire, ici dans Romains, en citant l'épisode où on trouve Élie au plus bas. Verset 2. « Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie, quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël ?« Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi seul, je suis resté. Et ils cherchent à m'enlever la vie. » J'ai travaillé pour rien, Seigneur. Ils t'ont tous rejeté. Et maintenant, ils en veulent à ma vie. Lisons le verset 4. Quelle réponse Dieu lui donne-t-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Élie n'est pas seul. Dieu a préservé un petit groupe, une poignée de fidèles, peu nombreux sans doute, éparpillés partout. Un petit groupe qui n'a pas abandonné le Seigneur. Et c'est encourageant pour nous de savoir que même si on est un jour dans une situation archi-minoritaire, même si la culture ambiante devient de plus en plus hostile aux chrétiens, Dieu sait préserver son peuple. Verset 5. De même, dans le temps présent, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. À l'époque d'Élie, c'est un petit sous-groupe d'Israélites qui suit Dieu. Même chose à l'époque de Paul et même chose à notre époque. Parce que même quand son peuple le rejette, Dieu ne rejette pas les siens. Sa fidélité dépasse l'infidélité du peuple. Et en signe de cette fidélité, il permet à un petit groupe d'aller à contre-courant. Dieu n'abandonne pas son peuple, il est absolument constant. Il a toujours préservé un petit groupe et en même temps, cela a toujours été le cas, que la plupart des Israélites s'opposent à Dieu et à son roi. Pas de nouveauté là non plus. Et Paul va citer chacune des trois grandes parties de l'Ancien Testament, la loi, les prophètes et les écrits, pour montrer que la plupart des Israélites s'est toujours rebellé contre Dieu. Pas de nouveauté là-dessus. Verset 8, les prophètes d'abord. Comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur. C'est une citation du prophète Ésaïe. Des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est le livre de Deutéronome, donc un livre de la loi. Que leur table soit pour un piège, un filet, un obstacle et un moyen de punition. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir. Fais-leur courber constamment le dos. C'est le psaume 69 qui fait partie des écrits. tout l'Ancien Testament témoigne de la rébellion du peuple. Et dans le psaume qui est cité, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tant à Dieu, mais à son roi que les gens s'opposent. Le roi David fait appel à Dieu pour lui demander de le sauver de ses ennemis. Et ses ennemis sont des Israélites dans ce psaume. Paul veut nous montrer que déjà dans l'Ancien Testament, le roi désigné par Dieu est rejeté par son peuple, tout comme Jésus l'a été. Donc Paul veut nous rassurer en nous montrant que la dureté de cœur de la plupart des Israélites n'est pas nouvelle. Cela a toujours été le cas et Dieu maîtrise ce qui se passe. Le rejet de Jésus, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un imprévu de la part de Dieu. Dieu maîtrise la situation. Il est absolument constant et absolument digne de confiance. Et c'est très important qu'on en ait conscience. Si la stratégie de Dieu avait changé ou même échoué vis-à-vis des Israélites, qu'est-ce qui garantirait qu'elle ne changerait pas pour nous? Peut-être si on faisait quelque chose de suffisamment grave, Dieu pourrait changer d'avis. Ou peut-être que si nos circonstances évoluaient de manière imprévue, Dieu serait dépassé, pris de court. Ou peut-être si ça devenait plus difficile d'être chrétien en France, Dieu ne serait pas en mesure de nous garder. Mais puisque Dieu n'a pas changé d'avis envers les Israélites, on a la garantie qu'il ne changera pas d'avis envers nous aussi. Après nous avoir choisis, il ne va pas nous rejeter. Après avoir fait de nous ses enfants, il ne va pas nous laisser tomber. Après avoir fait de nous ses héritiers, il ne va pas nous priver de l'héritage promis. Les promesses de Dieu sont absolument solides. Quoi qu'il arrive, Dieu ne changera pas d'avis envers ceux et celles qui lui appartiennent. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. « Je connais mes brebis et personne ne pourra les arracher à ma main. » Confiant dans le plan de Dieu, ensuite émerveillé devant le plan de Dieu. Alors, on adore tous les histoires de comeback, comme on dit, des situations où on passe de l'échec à l'exploit. En 2014, l'équipe de France était à deux doigts de ne pas se qualifier pour la Coupe du monde de football. Elle a été battue dans son avant-dernier match de qualification. Tout le monde disait que c'était fini, que c'était une honte pour la France. Il fallait qu'ils gagnent 3-0 dans leur dernier match. Et contre toute attente, c'est ce qu'ils ont fait. On est passé de l'échec à l'exploit. Je pourrais citer un autre exemple avec le Paris Saint-Germain et le Barcelone. Je ne vais pas le faire pour ne pas mettre certains mal à l'aise. Dans les versets 11 à 15, Paul nous parle d'un renversement infiniment plus grand. Il a défendu la fidélité de Dieu et maintenant il passe à l'attaque. Il va montrer que le rejet de l'Évangile par les Israélites fait partie de son plan ingénieux, son plan pour que l'Évangile se répande partout. Verset 11. Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Certainement pas. Mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut. Autrement dit, est-ce que c'est fini pour le peuple juif? Dieu a-t-il tiré un trait sur ce chapitre de l'histoire? Il a sauvé un petit groupe et puis il est passé à autre chose? Réponse de Paul, non. Dieu n'a pas oublié Israël, elle a toujours un rôle à jouer. Et ce que Paul va dire, c'est assez audacieux. Premièrement, Israël a un rôle à jouer par son rejet de l'Évangile. Je m'explique. C'est le rejet de l'Évangile par les Juifs qui permet aux non-Juifs, comme la plupart d'entre nous, d'avoir accès au salut. C'est parce qu'eux l'ont rejeté que l'Évangile a été annoncé aux autres. On le voit partout, par exemple, dans le livre des Actes. Voici un exemple, acte 13. Paul prêche dans une synagogue. Les Juifs rejettent le message. Et voici la réponse de Paul. C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. On pourrait trouver d'autres exemples. Dieu se sert du rejet juif, il le prévoit même, pour répandre l'évangile partout. Sans ce rejet, la bonne nouvelle ne serait peut-être jamais parvenue jusqu'à nous. Donc Israël a un rôle à jouer par son rejet du message, mais ce n'est pas tout.
Paul dit que grâce au rejet des Juifs, les non-Juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, afin de provoquer leur jalousie? Ce qui m'a aidé à comprendre cette idée, ça a été d'observer mes filles pendant leur repas. J'ai deux filles, Lucie et Emma, et Lucie est dans une phase où elle est un petit peu difficile par rapport à la nourriture, elle ne veut pas manger ce qu'on lui donne. Mais si on prend son assiette et on la propose à Emma, alors là, tout de suite, c'est bon. Là, elle veut la récupérer, elle accepte de manger, parfois. Ici, toute proportion gardée, c'est la même chose. Paul dit qu'en annonçant aux non-juifs, celui qui représente l'accomplissement des promesses faites aux juifs, leur roi, leur sauveur, leur libérateur, Paul espère provoquer la jalousie des juifs. Et par là, il espère les attirer à recevoir enfin le message de la bonne nouvelle. Verset 13, je vous le dis, à vous qui êtes d'origine non-juive, en tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fier de mon ministère, afin, si possible, de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. L'idée, c'est qu'en proposant aux non-juifs de manière ostentatoire ce que les juifs attendaient, le pardon des péchés, une nouvelle relation avec Dieu, le règne du roi promis, les juifs vont devenir jaloux et vouloir ces choses pour eux-mêmes. On pourrait schématiser la situation de cette manière. L'évangile est prêché aux juifs, les juifs rejettent l'évangile, l'évangile est prêché aux non-juifs, les juifs deviennent jaloux, les non-juifs l'acceptent, les juifs deviennent jaloux et certains finissent par croire. C'est un coup de génie de la part de Dieu. Un des grands soucis de Paul dans Romains a justement été le sort de son peuple, les juifs. Au chapitre 9, Paul dit qu'il donnerait tout pour que ses compatriotes soient sauvés. Si possible qu'il irait jusqu'à être maudit et séparé de Christ pour eux. Mais que faire? Ils ont eu toutes les chances possibles de croire et ils les ont rejetés. Réponse, Dieu, dans sa souveraineté et sa sagesse infinie, se sert de leur rejet pour bénir le monde et pour ensuite les bénir eux aussi à leur tour. Dieu ne les a pas oubliés. Et pour certains, on peut donc s'attendre à une conversion en masse de personnes d'arrière-plan juif un jour. Pour d'autres, il s'agit d'un processus en continu, tout au cours de l'histoire, avec des juifs qui décident d'accepter l'évangile. Je ne pense pas qu'on soit obligé de trancher entre les deux options. L'important, c'est que Dieu n'a pas oublié le peuple juif. Il a toujours un plan pour lui, parce que sa fidélité dépasse l'infidélité de son peuple. Et ça veut dire que Dieu n'est pas juste en train de sauver les meubles. Il n'a pas juste sauvé ce petit groupe, ce reste, pour pouvoir dire « Regardez, j'ai tenu mes promesses ». Non, Dieu est beaucoup plus ambitieux que ça. Il a un grand projet pour le salut de tous, y compris le peuple juif. Et il utilise même ce qui paraît comme un échec pour le réaliser. On est toujours admiratif devant des gens qui retournent des situations désespérantes pour en faire des réussites. On en parlait tout à l'heure, d'Apple. En 1997, Steve Jobs revient à Apple, qui est au bord de la faillite, et en fait une des entreprises les plus riches du monde. Il invente l'iPod, l'iPhone, etc. Je sais que tous les geeks parmi vous trouvent que c'est un génie et un héros, et vous avez une affiche de lui sur votre mur. Mais le génie de Steve Jobs, c'est rien par rapport à la sagesse infinie de Dieu. Ce Dieu qui utilise ce qui paraît être un échec pour réaliser son projet, pour sauver un peuple de toute nation, y compris le peuple juif. Il est absolument fiable, il est infiniment sage. Et donc, au lieu de douter de sa fidélité, au lieu de douter de si on peut lui faire confiance ou si on peut croire au message de la bonne nouvelle, la réponse logique, c'est plutôt de nous humilier devant lui, de tomber à genoux et de reconnaître sa sagesse et sa générosité incroyable. Et c'est notre troisième point, humble devant le plan de Dieu. Donc jusqu'ici, Paul a répondu à deux questions. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Non, il a toujours préservé un petit groupe de fidèles. Est-ce fini pour le peuple juif? Non, Dieu veut toujours les attirer à revenir vers lui. Il y a une troisième question qu'on pourrait se poser. Si les juifs ont pour l'instant globalement rejeté l'évangile, et si nous, non-juifs, l'avons accepté, est-ce que ça veut dire qu'on est meilleur qu'eux, qu'on est plus méritant, qu'on peut se féliciter? J'habite dans un quartier avec une grande communauté juive, et souvent je passe devant une petite librairie qui vend des ouvrages écrits par des rabbins ou du matériel pour le culte juif. Si je suis honnête, ma réaction instinctive quand je passe devant, c'est une réaction d'orgueil. C'est de me dire que, contrairement à eux, moi j'ai compris. J'ai compris qui est Jésus. J'ai compris qu'il est le roi de Dieu, le sauveur du monde. Bravo Dieu, Dieu peut être bien content de toi. Si les Juifs ont rejeté l'Évangile et les non-Juifs l'ont accueilli, est-ce que ça veut dire qu'on a de quoi se féliciter? Dans les versets 12 à 16, Paul nous met en garde contre ce danger d'orgueil. Parce que comme on vient de le voir, la seule personne qui mérite d'être félicitée pour sa sagesse, c'est Dieu. Nous sommes simplement les humbles bénéficiaires de sa sagesse et de sa générosité. Paul nous donne deux raisons d'être humbles. Humble envers les Juifs, parce que Dieu nous a permis d'être les bénéficiaires de leur héritage, et humble envers Dieu, parce qu'il nous permet d'être accueillis simplement par la foi. Verset 17. Si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Paul présente ici l'ensemble du peuple de Dieu, composé de juifs, de personnes juives et non-juives, comme un olivier. Les branches de l'olivier, si on peut-être juste passer à la diapo suivante, les branches de l'olivier correspondent aux membres du peuple de Dieu. Les branches coupées correspondent aux juifs qui refusent de croire en Jésus. Les branches sauvages qui sont greffées sur l'olivier correspondent aux gens comme nous, des non-juifs qui mettent leur foi en Jésus. Et la racine correspond aux patriarches juifs, Abraham, Isaac et Jacob, à qui Dieu a communiqué ses promesses. Donc si aujourd'hui on peut bénéficier de la faveur de Dieu, son amour, son pardon, l'espérance d'un avenir avec lui, c'est seulement parce qu'on est porté par ses racines. C'est seulement parce que Dieu fait de nous les bénéficiaires de ses promesses. Dieu avait promis à Abraham un peuple, un pays et des privilèges. Pendant toute l'histoire d'Israël, on s'attend à ce que ce soit eux les bénéficiaires de ses promesses. Mais maintenant, par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons devenir le peuple de Dieu, jouir du privilège d'une relation avec lui et attendre le pays promis, la nouvelle création que Dieu prépare. Nous devenons les bénéficiaires des promesses faites à Abraham. Humilité, donc. Nous avons la chance d'être au bénéfice de cet héritage. Deuxièmement, nous n'avons rien fait pour mériter notre place. Verset 19. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil. Qu'est-ce qui fait que nous, qui sommes des branches venues d'ailleurs, sommes greffées sur l'olivier? Seulement la foi. Pas parce que nous avons mérité d'être accueillis, mais simplement parce que nous avons accepté le don que Dieu nous a offert. Et Paul insiste encore et encore dans Romains sur le fait que la foi ne donne aucun droit de se féliciter. Pas plus qu'un enfant pourrait se féliciter de recevoir le cadeau que lui offrent ses parents pour son anniversaire. La foi, c'est simplement cette main vide tendue vers Dieu pour recevoir ce qu'on ne mérite pas. Et on le voit très clairement dans l'exemple de l'olivier. Rien ne donnait droit à ces branches étrangères d'être incluses. Elles sont greffées contre nature. Rien ne les destinait à ça. En tout cas, rien dans le cours naturel des choses. Elles ont leur place simplement parce que Dieu est généreux. Et c'est facile de l'oublier. Peut-être surtout si on a grandi dans une famille chrétienne ou si ça fait un moment qu'on est chrétien. Et c'est facile de penser que c'est une évidence que Dieu nous accepte. Bien sûr qu'il nous accueille, ça va de soi. Mais ça ne va pas de soi. C'est seulement parce que Dieu est généreux qu'il permet à des gens comme nous d'être inclus contre nature. Est-ce que nous mesurons notre chance? Ça vaudrait le coup de prendre le temps cette semaine pour méditer là-dessus. Nous ne méritons pas d'être acceptés. Rien dans ce que nous sommes naturellement nous y donner droit. Et pourtant, nous sommes acceptés par la foi en Jésus, mais seulement parce que Dieu est généreux. Humble devant le plan de Dieu. La base de toute notre confiance n'est donc pas nous-mêmes, c'est Dieu. Lui seul est sage, lui seul est d'une générosité sans limite, lui seul est absolument fidèle, et lui seul a un plan absolument sûr pour sauver des gens partout dans le monde, même si on ne le mérite pas. Et si c'est le cas, la réponse logique de notre part, ce n'est pas le doute, mais c'est l'humilité et la reconnaissance. Quel grand Dieu qui tient ses promesses sans faillir et qui fait bien plus que tout ce qu'on peut demander ou imaginer. Son appel est irrévocable, son amour infaillible, l'espérance qu'il nous donne inébranlable. On peut être absolument certain que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de lui. Peut-être que ça vous arrive de vous demander, est-ce que je suis en train de rater ma vie en tant que chrétien ? Je me prive de certaines choses, je fais des sacrifices pour soutenir l'œuvre de l'Église, je fais de mon mieux pour honorer Dieu dans ma vie, même quand c'est difficile. Est-ce que c'est la peine ? Ou peut-être que vous vous demandez, est-ce que je perds mon temps en partageant ma foi avec d'autres personnes ? Est-ce que c'est la peine d'inviter cet ami aux soirées à Marc Lanquette, par exemple ? Ou est-ce que c'est la peine de m'exposer à des réactions hostiles en parlant de Jésus au travail ? Est-ce que c'est la peine ? Le message de ce soir, c'est que oui, ça vaut la peine. Parce que notre foi repose sur une base absolument solide, un Dieu infiniment sage en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation et qui nous a donné la vie par sa parole de vérité. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Je vous invite à la prière. Mais ce n'est pas comme si la parole de Dieu a échoué. Merci notre Dieu, notre bon Père Céleste, pour le fait que tu es un Dieu qui tient ses promesses, qui n'abandonne pas son peuple et qui a élaboré un plan pour que l'Évangile se répande partout dans le monde et même jusqu'à nous, ici. Merci pour l'assurance que nous avons, que si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, que rien ni personne ne peut nous couper de ton amour, parce que c'est toi qui nous le garantis. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.